Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, bien sûr, Benaouda Abdedaïm et sa moisson d'études glanées à travers la planète. Et puis notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco, qui nous plongera dans un roman d'anticipation, on peut le dire comme ça. N'oubliez pas évidemment tous nos réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho pour retrouver tous les programmes, toutes les références des livres cités dans l'émission et des replays aussi, bien sûr. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Comment mieux vivre demain tout en relevant les trois grands défis qui se présentent à nos sociétés? La transition écologique, la transition numérique, les inégalités. Eh bien, c'est à cette question que répondent aujourd'hui nos deux invités. Deux grands économistes français dont les livres sont toujours un événement à leur sortie. Et là, ça tombe bien, ils publient en même temps. Pierre-Noël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie émérite à Mines, Paris, à Dauphine PSL. Et vous êtes aussi enseignant à l'université Mohamed VI, qui a deux sites, hein, je crois, au Maroc. Et vous publiez « Du pain et des jeux, une économie politique des usages du temps ». Nous ne nous en sortirons qu'au prix d'une profonde transformation des usages que nous faisons de notre ressource la plus rare, qui est donc le temps. On va voir ça tout de suite. Et puis Gilles Berset, vous êtes professeur à Neoma Business School, vous êtes un spécialiste de toujours du marché du travail, et vous publiez « Travailleurs mais pauvres » aux éditions de Bouec Supérieur. Et vous êtes réunis ensemble aujourd'hui parce que l'un comme l'autre, vous placez au cœur de vos réflexions l'avenir du travail, dont il sera évidemment largement question dans cette émission. Pierre-Noël Giraud, je commence avec vous. Le temps, c'est la ressource ultime, plus que toutes les autres, celle qui est la plus rare. Vous dites même, tout ce qui concerne les ressources naturelles, c'est pas aussi précieux que le temps.
Non, bien sûr, parce que on sait très bien qu'on peut parfaitement vivre à 12 milliards, ce que sera le maximum de la population mondiale, sur cette Terre, sans la détruire. Si on la détruit aujourd'hui, c'est parce qu'on ne lui consacre pas assez de temps. Voilà. Quant au capital, qui est pour les économistes, hein, la Terre, le capital et le travail, c'est les trois facteurs de production, le capital peut être produit. Donc en fin de compte, la seule ressource véritablement rare, c'est le temps dont nous disposons, à la fois chacun d'entre nous et collectivement.
Oui, mais alors justement, vous dites la Terre aurait besoin qu'on lui consacre plus de temps. Oui. Donc concrètement, à quoi aujourd'hui, si on veut s'en sortir, il faut consacrer plus de temps et à quoi il faut consacrer moins de temps?
Eh bien, il faut consacrer plus de temps en général aux activités de soins, dont le soin de la nature, mais aussi le soin des autres, c'est-à-dire la santé, la formation. Mais là, prenons la nature. Et c'est en rapport avec la crise paysanne actuelle. Bon. Il est tout à fait clair que si on veut produire une nourriture saine dans des conditions qui préservent, voire restaurent la nature, il va falloir y consacrer beaucoup plus de temps. Il va falloir plus de paysans sur des exploitations plus petites, jardinant la nature. Et donc, si on y consacre plus de temps, sans adhérer strictement à la théorie de la valeur travail, la nourriture devra coûter plus cher. Et c'est vrai pour le logement. Et c'est vrai pour l'énergie. Si c'était moins cher de faire de l'énergie décarbonée que de l'énergie carbonée, ben on le ferait. L'énergie décarbonée, au moins dans un premier temps, ça va coûter plus cher et exiger plus de temps.
Mais ça, c'est un monde... Alors, ça vous choque pas en tant qu'économiste de nous dire que finalement c'est un monde moins productif quelque part, ce que vous nous décrivez.
Oui, c'est un monde, non seulement, oui, c'est un monde moins productif, mais on discutera peut-être de ce que signifient les chiffres de la productivité ou du PIB par habitant. Mais, si vous voulez, c'est aussi un monde où nous traitons véritablement les questions essentielles que vous avez rappelées, c'est-à-dire la maîtrise de notre rapport à la nature, la maîtrise de la révolution informatique et les inégalités.
Alors, qu'est-ce qui doit, à contrario, nous demander moins de temps ?
Eh bien, la mauvaise nouvelle de mon livre, enfin pour ceux qui veulent plus de temps libre, c'est que l'augmentation régulière du temps libre, c'est fini. Il va peut-être même falloir prendre sur notre temps de loisir pour prendre au sérieux les problèmes qu'on vient d'évoquer. Il faut savoir quand même, le temps libre a beaucoup augmenté entre 1920 et 2020. Surtout dans la période 1920-80. Entre 80 et aujourd'hui, tout stagne. Hein, le PIB par habitant, mais aussi la réduction du temps de travail s'arrête.
La productivité aussi stagne.
Oui, bien sûr. À l'origine de tout ça, voilà.
Alors, vous dites, c'est la ressource la plus rare. Parce que en plus, on ne peut ni la stocker, ni l'économiser. C'est pas de la monnaie.
Non.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, le fait que la durée de vie se soit considérablement allongée, est-ce qu'on peut pas dire quelque part que finalement, on a quand même beaucoup plus de temps qu'avant?
Non, mais c'est certain. On a beaucoup plus de temps qu'au début du XXe siècle, de vie, en bonne santé, et aussi on travaille beaucoup moins. Mais le temps, c'est pas uniquement le temps de travail, hein. C'est, pour moi, c'est ça l'intérêt d'entrer dans les questions par le temps, c'est qu'il y a le temps de travail qui préoccupe essentiellement les économistes, mais il y a le temps domestique, tout ce travail domestique qui n'est pas marchand, et il y a le temps libre.
Qui est aussi un temps de travail.
Qui est aussi un temps de travail, je l'appelle le temps d'autoproduction, de soi, du ménage, et puis il y a le temps libre, qui fait aujourd'hui l'objet d'un féroce assaut de la part des plateformes pour capter notre temps de cerveau disponible.
Moi, je comprends dans votre livre, Pierre-Noël Giraud, qu'avec la révolution numérique, vous dites qu'on va encore se libérer du temps.
Oui, absolument. On va encore se libérer du temps, en ce moment avec l'intelligence artificielle générative. Mais comme on a besoin de beaucoup plus de temps ailleurs... J'ai pas fait des calculs très précis, on n'a pas vraiment les données, mais j'explique pourquoi. Je pense que globalement et collectivement, il va falloir travailler plus. Ce qui rend d'autant plus important la question de l'intérêt du travail. Parce que si des gens aujourd'hui veulent plus de loisirs, dans beaucoup de cas, c'est parce que le travail marchand les emmerde. La vraie vie est ailleurs.
Bon, alors... Donc, vous considérez, et on va venir aussi, parce que tous les deux, vous citez la fameuse, alors je ne sais pas s'il faut parler de prévision, de prophétie, de John Maynard Keynes, qui dit, finalement, on finira par travailler 15 heures par semaine grâce aux gains de productivité et aux progrès technologiques. Est-ce que cette prévision, Gilles Berset, elle vous paraît réaliste? Elle vous paraît jouable? Elle vous paraît probable?
Donc Keynes a écrit cela en 1930 et il disait que ça viendrait dans 100 ans, c'est-à-dire en 2030. Ouais. Et on voit qu'en 2030, on n'en sera évidemment pas là. Néanmoins, c'est une question d'ampleur. Il s'est trompé assez fortement sur l'ampleur du phénomène, mais sur le sens en tout cas des évolutions, il ne s'est pas trompé. Effectivement, les gains de productivité ont été très 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 importants. Mais là où Keynes faisait une erreur plus grave... C'est qu'il disait la réduction du temps de travail est une réponse au fait que sinon beaucoup de gens seraient au chômage. Disons c'était ça permettait une substitution entre les hommes et les heures. Il ne voyait pas du tout lui l'extension de la sphère de consommation qui permettrait par une production supérieure d'assurer du boulot à plus de gens malgré les gains de productivité. Vous voyez, malgré les gains de productivité. Donc c'était un phénomène qu'à l'époque, il n'avait pas vu. D'ailleurs, il concluait ce texte un peu humoristique en disant qu'il faudrait faire très très attention à ce que les personnes dans cette époque idyllique d'un travail de 3 heures par jour en moyenne ne frisent pas la déprime, la dépression nerveuse, etc. Il faudrait prendre soin d'eux.
Sauf que Gilbert, depuis 20 ans, les gains de productivité, il n'y en a plus.
Je ne dirais pas qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus depuis... 4 ou 5 ans, entre 2005 et 2019, ils ont été faibles, mais ils n'ont pas été nuls. 0,6% par an.
C'est faible.
C'est faible, C'est faible, mais sur un siècle, ça fait une augmentation du PIB d'environ 40%, 40 à 50%. C'est pas négligeable. Néanmoins, c'est très faible. Et ça ne permet pas de répondre à toutes les attentes, tous les besoins. Comment on finance la transition climatique? Comment on finance le vieillissement de la population et les charges afférentes? Comment on finance le désendettement public, bien évidemment? Et puis, comment on finance les attentes de gains de pouvoir d'achat qui s'expriment de façon sporadique mais violente dans des pays comme le nôtre?
Alors, il y a quand même une révolution sur laquelle j'aimerais vous entendre. Et Pierre-Noël, vous avez commencé à en parler. C'est la révolution numérique et qui atteint son paroxysme, on en veut dire, avec l'intelligence artificielle. Alors, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez quel est, vous, votre point de vue. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez comme un peu, j'ai envie de dire, les optimistes, il se passera ce qui s'est toujours passé, on détruit des emplois, on finit par en créer plus que ce qu'on a détruit, et finalement, dans ce scénario, bah, le macroéconomiste, il n'est pas mal à l'aise, ou bien est-ce qu'on va vers un monde véritablement nouveau, dans lequel, effectivement, l'intelligence artificielle va détruire massivement des emplois, et qu'on va se retrouver, effectivement, à travailler, je sais pas, 25 ou 30 heures par semaine. Pierre-Noël.
Donc moi, je suis résolument optimiste, je viens de le dire. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire qui ne sont pas du même type que ce que nous faisons aujourd'hui, produire des artefacts polluants. Il y a tellement de choses à faire que tant mieux que la révolution...
Non, mais c'est ça, vous dites, ça nous libère finalement...
Mais bien sûr.
...une quantité de travail qui va permettre de relever les défis du futur.
Absolument. Dans le domaine de l'alimentation, j'en ai parlé. Dans le domaine de la transition énergétique, j'en ai parlé. Dans le domaine du soin, de l'hôpital, de la formation. Parce que, comme toujours, quand on croit à la théorie du déversement, à la sauvie, le point central, c'est la formation. Je prends un exemple. Un consultant de McKinsey qui fait des PowerPoint et des résumés de la situation pour ses clients, maintenant, l'IA générative fera ça. D'accord, mais tout le problème est de savoir si un consultant de chez McKinsey va pouvoir se transformer facilement en nouveau paysan. Parce que c'est ça dont on a besoin. C'est une métaphore pour tous ces métiers du soin. Ben ça, c'est pas sûr du tout. Donc on voit bien que, comme toujours dans ce cas de figure, avec un progrès technique très rapide qui, heureusement, détruit des emplois, tout le problème, c'est la formation. Et si on ne fait pas cet effort, on va se retrouver avec des gens mais qui ne seront pas employables dans les nouveaux secteurs demandeurs d'emploi, et donc qui vont être inutiles, si je reprends l'expression de mon dernier livre.
Vous aviez vous-même inventé. Ouais.
Voilà, et économiquement inutiles. Et du coup, il va falloir leur donner à manger, parce qu'on laisse personne mourir de faim, donc du pain. Et puis, comme ils sont relativement oisifs, contrairement à d'autres qui sont surchargés et qui courent après des minutes, il va falloir leur donner des jeux. Et ça, ce sont les plateformes qui vont s'en charger quasi gratuitement.
Mais ça, c'est le scénario du pire.
C'est le scénario du pire. C'est le scénario où on a un État qui s'affaiblit et où on ne fait pas les efforts d'investissement public et de formation suffisants.
Alors justement, Gilbert, c'est vraiment les sujets qui sont au cœur de votre livre et vous avez des propositions. D'abord, le constat sur l'effet de chaque révolution technologique. Vous, votre point de vue, c'est quoi? C'est que ce sera encore la même chose que d'habitude ou que cette fois-ci, c'est vraiment différent parce que c'est beaucoup plus rapide, parce qu'on s'attaque non pas à la substitution de notre puissance physique mais de notre cerveau? Ou bien est-ce que vous pensez, comme Pierre-Noël, que ce sera comme d'habitude?
Je pense qu'il faut être à la fois prudent et modeste quand on parle des effets du progrès technique. En 2000, vous voyez, au tout début du siècle, on se disait les TIC vont être la source de gains de productivité absolument phénoménaux.
Ouais. Technologie de l'information et de la communication.
Phénoménaux. Et des économistes de grande stature, je pense à Dale Jorgensen, des spécialistes de la productivité, disaient, écrivez cela. Vous voyez, c'était le thème de sa conférence présidentielle à l'Association des économistes américaines, l'American Economic Association. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Pas encore, peut-être. Mais en tout cas, depuis, sur les deux dernières décennies, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut être prudent et chercher à comprendre pourquoi des révolutions technologiques, comme celles des technologies de l'information et de la communication, ne se sont pas associées immédiatement à des gains de productivité énormes. Et qu'est-ce qu'il peut en être de l'intelligence artificielle?
Vous dites, Gilbert, quand même, à chaque fois, il y a une constante. Chaque fois qu'on a une vraie innovation, une vraie révolution technologique, il se passe ce que vous appelez une polarisation des salaires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un effet vers le bas, il y a un effet vers le haut, et que c'est finalement l'effet sablier quelque part. Oui. Avec le milieu, la classe moyenne, le milieu de gamme qui souffre.
Voilà, le milieu de gamme qui souffre, les qualifications moyennes qui sont les plus menacées en quelque sorte par le progrès technique. Mais encore une fois, faut être prudent, vous voyez, parce que faut comprendre ce qui s'est passé avec les technologies de l'information et de la communication. C'est peut-être un problème de délai. C'est souvent ce qui a été dit. Il y a un article célèbre de Paul David qui nous dit qu'entre l'invention de la dynamo, du moteur électrique, et ses effets vraiment très forts sur la croissance économique et sur la productivité, il s'est écoulé 6 à 7 décennies. Ouais. 6 à 7 décennies. Donc il en est peut-être de même pour les technologies de l'information et de la communication. Il en sera peut-être de même pour l'intelligence artificielle.
Vous voyez bien que ça se joue en semaine, en mois.
Oui, on en parle beaucoup. Les TIC, ça se jouait en combien ? Tout le monde est équipé maintenant de téléphones portables, tout le monde est équipé d'ordinateurs portables, tout le monde est équipé de ces choses-là, et pourtant, au niveau macroéconomique, les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous.
Toujours est-il que cette révolution des TIC, elle a fabriqué plus de riches, et elle a fabriqué plus de pauvres qui travaillent.
Alors, elle a fabriqué plus de professions peu qualifiées. En tout cas, les professions peu qualifiées ont augmenté en quantité au sein de l'ensemble des professions. Pour les pauvres, c'est un petit peu différent, parce que quand on y regarde de près, et c'est ce que j'essaye de faire dans cet ouvrage, on voit que les facteurs de pauvreté ne sont pas le progrès technique. Le progrès technique ne pousse pas la pauvreté. Les facteurs de pauvreté sont essentiellement un faible nombre d'heures travaillées. Ça, c'est le premier facteur de pauvreté.
On parle de gens qui travaillent, hein, Gilbert. Hein.
Parmi les travailleurs. C'est un faible nombre d'heures travaillées, du fait du temps partiel, du fait de l'enchaînement de contrats courts. Et puis, c'est évidemment les charges familiales. Pour vous donner un chiffre, parmi les travailleurs, pour les travailleurs à temps plein, 5% de pauvres. Travailleurs à temps partiel, 15%. Travailleurs à temps partiel en famille monoparentale, plus de 30%. Vous voyez, c'est des chiffres quand même frappants, ça.
C'est pas qu'un phénomène français.
Absolument.
Mais vous dites, parmi tous les pays qui luttent contre cette pauvreté des travailleurs, la France s'en sort quand même plutôt pas mal.
La France s'en sert à la fois plutôt pas mal et plutôt mal sur d'autres plans. La France s'en sort pas mal au sens où la proportion de travailleurs pauvres est plus faible que dans d'autres pays. C'est évidemment réjouissant. D'un autre côté, les dispositifs déployés pour réduire les situations de pauvreté sont des dispositifs qui scotchent, d'une certaine façon, les gens au bas de la hiérarchie salariale ou dans leur situation. Pourquoi ? Parce que ces dispositifs, évidemment, sont dégressifs, diminuent en importance avec l'augmentation des revenus du travail. Et cette diminution réduit aussi l'appétence à la mobilité salariale, à la mobilité sociale. Il ne vaut pas le coup pour beaucoup de travailleurs, par exemple, compte tenu de l'effort que ça demande, de se former pour bénéficier d'une mobilité salariale et sortir de la situation de bas salaire qu'ils connaissent. Pour vous donner ici encore un chiffre, pour augmenter le revenu disponible net mensuel d'un SMICard à temps plein, ça coûte, pour augmenter de 100 euros par mois, il en coûte 483 euros au chef d'entreprise, environ 5 fois plus. Il y a là un frein phénoménal à la mobilité salariale qui peut expliquer qu'en France, cette mobilité est assez faible. L'appétence pour la formation professionnelle en est réduite, ce qui est dramatique, entre autres pour les raisons qui viennent d'être indiquées.
Alors, on va revenir à vos propositions, Gilbert. En attendant, Pierre-Noël Giraud, on comprend bien la mécanique sur la répartition, finalement, de nos heures, mais dans tout ça, il y a quand même une problématique de revenus. C'est-à-dire que travailler moins, ok, mais pour gagner quoi, comment, et au final, consommer quoi, finalement ?
Oui, alors... Soyons clairs, je pense qu'au niveau collectif, il va falloir travailler plus pour les raisons que j'ai dites.
Ouais.
Bon, mais en même temps, quand je passe à la partie proposition, il faut que je précise un peu quels sont les critères de justice que j'utilise.
D'accord.
Moi, je suis particulièrement sensible aux inégalités d'accès. C'est-à-dire que je pense que ce qui est essentiel, c'est pas tant les inégalités de revenus, c'est les inégalités de patrimoine, parce qu'elles sont très significatives, j'en dis un mot dans mon livre, mais fondamentalement les inégalités d'accès. Donc les capacités au sens d'Amartya Sen, que les gens aient les moyens alors de grimper dans l'échelle des revenus s'ils le souhaitent, ils peuvent ne pas le souhaiter, de travailler moins tout en obtenant un revenu qui leur permet de vivre décemment, alors pas dans le 6e arrondissement à Paris, mais à la campagne, et travailler par Internet, etc. Donc, je suis pour offrir la possibilité à chacun de travailler la moitié de la durée hebdomadaire légale, 17h05, on est presque aux 15h de Keynes, mais pour un revenu qui lui permette de vivre décemment, même si c'est très sobrement. Et pour ça, il n'est pas simplement nécessaire d'augmenter monétairement les bas salaires, mais il faudrait aussi, alors là, transformer tout le système productif pour faire face aussi aux défis du changement climatique, de manière à ce que les artefacts qui sont produits et les services associés soient à longue durée de vie, peu émetteurs de flux de déchets, parce que c'est ça le principal problème environnemental, facilement réparables et totalement recyclables. Et à la fin, évidemment, ces objets coûteraient moins cher. Et c'est ça, là, un des moyens fondamentaux de permettre à des gens, tout en travaillant moins, d'avoir un revenu décent.
Avec des produits qui coûtent moins cher, avec une espèce de prix de coût actualisé, en fait.
Oui, bien sûr, sur la durée de vie, qui sont réparables facilement. J'ai fait une analyse du prix d'un véhicule d'entrée de gamme Renault exprimé en heures de SMIC brut. Ouais. Alors, 4 chevaux, 4L, R5, ouais. Twingo et Twingo électrique.
D'accord.
Et ben, la courbe, c'est ça. Au départ, au début des 30 glorieuses, la 4 chevaux, son prix baisse. Ouais. La 4L, ça baisse encore. Et puis, ça s'arrête de baisser dans les années 90. Et avec la Twingo électrique, ça remonte. C'est bien qu'aujourd'hui, pour quelqu'un de pauvre qui a absolument besoin d'une mobilité, pour s'offrir le véhicule d'entrée de gamme, il paye plus que l'ouvrier au milieu des 30 glorieuses. C'est ça qu'il faut changer. Il faut avoir un véhicule électrique entièrement nouveau, c'est pas la peine de recopier les voitures anciennes. Et d'ailleurs, dit le président de Renault vient de proposer un Airbus du petit véhicule, petit, léger, recyclable véhicule électrique. Vous voyez, il faut changer la nature des biens qu'on produit.
Gilles Berset, si on se projette sur ce scénario quand même de moins de travail. La question c'est comment on répartit différemment les revenus. Et vous, justement, pour protéger ces salariés pauvres, vous évoquez quatre pistes. Hein. Je les cite rapidement. Traiter la question des temps partiels subis. Et donc c'est là, bien. Vous êtes un peu sur cette notion de minimum aussi. La population des parents isolés, qui est sans doute la plus fragile aujourd'hui. Les SMICards qui sont piégés à vie au SMIC, et puis les personnes peu qualifiées. Et là, vous rejoignez la préoccupation majeure qui est celle de la formation.
Ah, absolument. Absolument. Les quatre pistes que vous venez de rappeler sont vraiment essentielles, doivent structurer les politiques de lutte contre la pauvreté laborieuse. Le temps partiel subi est vraiment une calamité pour beaucoup de personnes qui sont enfermées dans des situations de temps partiel, parfois très courts. Faut essayer de changer, d'accompagner en quelque sorte, les partenaires sociaux ont un rôle essentiel à jouer ici, d'accompagner les personnes dans leur recherche de temps de travail un petit peu plus long. Il y a des expériences qui sont menées en ce moment en Allemagne, par exemple, dans lesquelles on peut trouver une certaine inspiration, expérience de temps partiel choisie. Il y a par ailleurs, comme vous le dites, les aides aux gardes d'enfants. Là, beaucoup de politiques ont été déployées sur les deux dernières années. Il faut attendre d'avoir un peu de recul pour savoir si ça mord dans la cible qui est visée, entre autres les familles monoparentales, un petit peu désemparées, qui se retrouvent piégées dans une situation de pauvreté avec des charges familiales très lourdes, souvent, le plus souvent, même quasiment exclusivement, des femmes. Il y a la mobilité intra-générationnelle, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que les gens restent scotchés au niveau de bas salaire, par un ensemble de dispositifs qui ont été empilés en France sans aucune cohérence, mais des dispositifs qui chacun, pour chacun, ont de très bonnes intentions, réduire les situations de détresse et de pauvreté au travail, mais qui, en étant empilés sans cohérence, finissent par scotcher, être contre-productifs, par scotcher les gens dans des situations de bas salaire, en baissant le gain le retour sur la formation professionnelle. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre Noël, la mobilité intergénérationnelle. La mobilité intergénérationnelle qui est alarmante en France. Quand on voit que la France est l'un des pays dans lequel la proportion de personnes qui réussissent, ou en tout cas le pourcentage, la réussite scolaire, s'explique le plus par le statut social des parents, il y a quelque chose d'alarmant. Alors, c'est un échec de l'école.
Juste pour terminer, j'y résiste pas, même si on a bientôt fini. Gilbert, vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus de besoins à financer, et on voit de plus en plus de ressources fiscales qui s'évaporent. Si on passe au véhicule électrique, quid des ressources pétrolières? Est-ce que un des principaux défis qu'il faudrait rajouter aux défis climatiques, numériques, etc., est-ce que c'est pas le défi d'une révolution fiscale? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nouvelle fiscalité à avancer pour aller chercher beaucoup de ressources plus qu'aujourd'hui pour financer tout ça, et sans que ça mette l'économie par terre?
La France a la chance de ses handicaps. Quand on a un handicap, si on réduit le handicap, ça peut évidemment produire une évolution très favorable.
Ouais.
Je vais illustrer ça de façon très concrète. La France est un pays dans lequel on travaille peu comparé à d'autres pays. Comparé par exemple aux Pays-Bas, à l'Allemagne, ouais, pays nordiques et scandinaves. Notre taux d'emploi est inférieur à celui de ces pays de 10 à 15 points. Vous voyez, 68% le taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans en France, 82% aux Pays-Bas. Et juste pour finir sur ce point-là, nous aurions en France le taux d'emploi des Pays-Bas.
Ouais.
Ça voudrait dire un PIB.
On aurait toutes les recettes fiscales qui vont avec.
Voilà.
Et
le calcul de coin de table qu'on peut faire, c'est 150 milliards de plus par an,
ah ouais,
sans rien changer au taux de prélèvement, 150 milliards de plus par an dans les caisses publiques.
Avec ça,
on peut financer pas mal de choses.
Oui, il faut que la fiscalité soit juste, qu'elle pèse de la même façon. La fiscalité des revenus, premier point, qu'elle soit juste. Alors qu'on sait très bien que les revenus des plus hauts capitaux échappent. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire une différence entre la fiscalité des revenus et la fiscalité du patrimoine. Mmh. Bon, la fiscalité des revenus, elle est déterminée, enfin, les revenus sont déterminés par le marché du travail. Tout ce qu'on peut discuter, c'est le taux de progressivité de l'impôt du moment qu'il est équitable. Les patrimoines, par contre, moi, je suis pour une confiscation des patrimoines à l'héritage. Au-delà du seuil très confortable de 35 millions d'euros. Voilà. Au-dessus, vous devez donner votre héritage soit à un fonds souverain, soit mieux, à une fondation privée qui porte votre nom et qui, comme la fondation Bill et Melinda Gates, produit des biens publics dont nous avons besoin.
Merci beaucoup à tous les deux. Gilbert Sept, travailleur, mais pauvre, c'est aux éditions de Bouec. Et puis Pierre-Noël Giraud, du pain et des jeux, une économie politique des usages du temps, chez Odile Jacob. Je rappelle, comme chaque semaine, que deux de nos auditeurs vont recevoir vos livres dédicacés. Pour le livre de Pierre-Noël Giraud, ce sera Adrien, et pour le livre de Gilbert Sept, ce sera Alexandre. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdedaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Eva Jacot, notre bibliothécaire, qui nous parlera d'un roman assez étrange, vous allez voir, cette semaine. Et tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis, chaque semaine, je cherche le mot, le gourou, l'animateur, des pages livres d'alternative économique. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, tiens, on commence avec votre choix, Christian Chavagneux. C'est le livre dirigé par Antoine Vauchez, Le moment régulateur aux presses de Sciences Po.
Ouais, autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers, autorité de la transparence de la vie publique, etc., etc. Ouais. Je pourrais vous en citer plein. En fait, depuis plusieurs décennies, on a aujourd'hui en France plus d'une quarantaine d'autorités de régulation. Le principe, c'est simple. On met des gens du public, des gens du privé ensemble sur un secteur et on leur dit, voilà, régulez votre secteur. Et nous, l'État dirigiste à la façon Trente Glorieuses, on s'en mêle plus. Allez-y. Et donc, ce qu'a fait Antoine Vaucher avec une douzaine de chercheurs et de chercheuses, c'est de dire, on va essayer de faire un bilan de ces autorités de régulation. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il y a plusieurs fils rouges, donc il y a des papiers très structurels, des papiers qui rentrent dans des cas particuliers. Moi, je retiens deux, trois idées. La première, c'est que l'Europe a été un facteur important avec la libéralisation des services publics, avec les privatisations. Ça a créé des nouveaux secteurs et du coup, il a fallu trouver la façon de réguler ces nouveaux secteurs. C'est quand même amusant de voir que le libéralisme crée beaucoup de bureaucratie. C'est un classique, mais ouais. Là, c'est redémontré encore une fois. Alors, il y a un truc à noter, c'est que pour les deux grandes financières, l'autorité des marchés financiers et la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc qui contrôle les banques, là, les acteurs du privé et les pantoufleurs sont très très présents. Mais dans toutes les autres, nous disent les auteurs, c'est surtout des acteurs du public et des gens qui viennent du public. Et surtout, le Conseil d'État, visiblement, apparaît comme un vivier extrêmement important de gens qui vont essaimer un petit peu partout dans ces autorités de régulation. Conseil d'État qui est une sorte de méta-régulateur, un peu le régulateur des régulateurs, un petit peu au-dessus, qui fait un peu qui donne le là, qui essaie d'avoir une vision un petit peu conceptuelle, même si un des auteurs, un des autrices, je ne sais plus, nous dit, bon, la formalisation, elle reste quand même assez faiblarde. Les auteurs nous disent globalement, il n'y a pas de capture par les intérêts privés. C'est vraiment quelque chose où le public est assez présent. Ils ont cette expression qui revient souvent, c'est des régulations différemment publiques. Donc on n'est plus dans l'État vraiment qui met la main, qui regarde tout, qui décide de tout comme dans les 30 Glorieuses. On est sur quelque chose qui est différemment public. Le Souti dit même une contre-culture de gouvernement, une autre façon de faire le gouvernement. Et le bilan général, un peu sous forme d'oxymore, c'est ces agences de régulation finalement, elles bâtissent un intérêt général au plus près des intérêts privés. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Globalement, à la fin, ce qu'on a envie de savoir, c'est ça fait du bien à l'économie ou ça ne fait pas du bien à l'économie. Et là, malheureusement, aucun des chercheurs va sur ce terrain-là. Il reste un petit peu en surplomb, il fait une analyse générale, des aspects juridiques, des aspects économiques. Voilà, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait au moins dans le chapitre conclusif. Bon, alors finalement, tout ça, c'est bien ou c'est pas
côté
bien ?
Côté bilan, quoi.
Côté bilan. Et ça, je trouve que ça manque.
Bon, Jean-Marc Daniel, ce moment régulateur.
Oui, alors c'est un livre assez typiquement universitaire. D'abord, le vocabulaire utilisé est assez particulier. C'est un vocabulaire très marqué par le droit. Il y a beaucoup de références juridiques. Ensuite, le style est assez, se veut austère, très, on avance de façon assez laborieuse. Et quelquefois, alors, non seulement ça manque un peu de conclusion, mais quelquefois, on a l'impression qu'on a développé beaucoup d'arguments pour enfoncer des portes ouvertes. Christian l'a dit, effectivement, ils analysent autorité par autorité et ils font une découverte. Par exemple, ils regardent les profils qui sont dans ces autorités et ils s'aperçoivent que dans celles qui s'occupent de l'énergie, il y a beaucoup de polytechniciens, alors que dans celles qui s'occupent de la finance, il y a beaucoup de gens qui ont une formation économique et financière. C'était peut-être pas la peine de c'est un article entier.
Oui, on peut être étonné, on aurait pu penser qu'il y aurait des polytechniciens partout.
Exactement. Donc effectivement, il y a eu une espèce de recul potentiel de l'école politique. Donc, alors, ce que j'ai trouvé le plus intéressant par rapport à ce que vient de dire Christian, c'est effectivement ce rôle du Conseil d'État. Il y a un chapitre qui est consacré au Conseil d'État, qui explique bien d'ailleurs que le Conseil d'État est un peu celui qui a initié le mouvement, donc un rapport qui date des années 80 et donc qui définit ce que doivent être les AAI, les autorités administratives en charge de la régulation. Et donc, il se pose la question de savoir est-ce qu'il y a eu un pouvoir de régulocrate qui est apparu. Est-ce qu'il y a plusieurs reprises, il emploie l'expression. Là où je suis resté un peu sur ma faim, alors que effectivement, ça demande un effort. Hein, je maintiens, ne rentrez pas là-dedans avec l'idée que on tourne les pages pour savoir la fin. Hein. C'est il faut s'accrocher un peu. À la fin, effectivement, on se dit oui, mais so what ? Qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de tout ça, de tout ce travail intellectuel, de tout ce savoir, de toute cette érudition, de toute cette réflexion ? Quelle conclusion tirer ? On reste un peu sur sa faim.
Et donc, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de préconisation non plus.
Non, il n'y a pas de vraie préconisation. C'est assez descriptif. Pas laborieux, c'est très construit, mais ça avance pas très vite et avec des conclusions qui ont du mal à émerger.
Bon, puisque vous étiez en recherche de sensations fortes, mon cher Jean-Marc, je pense que le livre que vous avez choisi vous a davantage satisfait, puisque vous avez choisi le livre de Michael Lewis, Going Infinite. Alors c'est la saga FTX, l'ascension et la chute du magnat des crypto-monnaies. Et c'est aux éditions... Alors attendez, parce que malheureusement...
Talent, ça s'appelle. Talent édition.
Oui, C'est ça, Talent Édition. C'est trop petit sur la feuille.
Donc le héros, c'est Sam Bankman-Fried, ben oui. Qui est effectivement un personnage absolument sidérant. Le livre est passionnant, effectivement. C'est un roman. Si je devais faire deux critiques, la première, c'est que sur le plan d'édition, il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup d'approximations de traduction.
Bah, on sent que le livre a dû sortir très vite.
Oui, oui, absolument. Voilà, il y a un travail. Oui, oui, il fallait répondre à une demande, oui. Manifestement. Donc là, on est allé un peu vite. Et la deuxième chose, c'est que on connaît l'auteur, Michael Lewis. Il y a une certaine propension chez lui, toujours, à se laisser perdre dans des digressions, à s'éloigner un peu de son sujet pour frapper l'imagination. Et là, il n'y avait pas besoin de frapper l'imagination, parce que le personnage central est un personnage saisissant. Donc, il est tout jeune. Hein. Il est né le 5 mars 1992. Et donc... D'emblée, on nous le décrit comme un personnage asocial, replié sur lui-même, n'ayant pas d'amis, à la limite de l'autisme. Enfin, un personnage assez peu sympathique dans un milieu culturel, familial, qui est plutôt assez ouvert. Ses parents sont professeurs de droit, c'est la gauche américaine californienne qui veut donner une éducation assez poussée à ses deux fils, puisqu'il a un frère. Et alors, on voit ce personnage qui fait des études de mathématiques, qui se passionne pour les probabilité pour les jeux surtout, et qui rentre dans une entreprise de trading haute fréquence et qui découvre effectivement cette espèce d'utilisation du jeu pour gagner énormément d'argent. Avec une anecdote, son seul échec, c'est au moment de l'élection de Donald Trump. Il annonce avant tout le monde que Donald Trump va être élu, alors qu'il y a encore des hésitations et un certain nombre d'interrogations sur le score de Hillary Clinton, qui est quand même devant en nombre de voix. Et donc, il est le premier à dire que Trump va être élu, mais la conséquence qu'en tirent les marchés n'est pas du tout celle qui avait été anticipée. C'est-à-dire, le fait de savoir les choses avant les autres n'a pas une conséquence positive. Et donc, il se dit, finalement, c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Et donc, progressivement, il se met à créer sa propre boîte et à intervenir sur le marché des crypto-actifs, crypto-monnaies, avec un complice, un allié, le fondateur de Binance, qui est aussi une entreprise qui a défrayé la chronique. Et tout ça va se dérouler en fait en très peu de temps, entre 2019 et 2022. Et en 2022, il est aux Bahamas, l'entreprise fait faillite. Les liquidateurs arrivent, il n'y a pas de comptabilité, on ne sait pas qui fait quoi, il y a des objets bizarres qui traînent partout, les gens ont été recrutés au hasard, l'architecte...
Donc c'est bien une énorme escroquerie.
C'est même pas une escroquerie, c'est une espèce d'incapacité de quelqu'un à s'insérer dans quelque chose de naturel, et quelqu'un qui est totalement immature, et c'est au-delà de l'escroquerie, ce qui est intéressant, c'est comment il a pu fasciner à ce point des gens. C'est-à-dire, il a recruté des gens. On dit par exemple, l'architecte a été recruté parce qu'elle faisait du vélo avec un des collaborateurs. Il y a une jeune femme qui présente une candidature. On lui demande qu'est-ce que vous savez faire. Elle dit oui, non, ça n'a aucune importance. On a besoin de quelqu'un pour faire de la communication. Elle dit mais je sais pas, mais je ne fais rien. Vous allez faire la communication. Enfin, tout ça a été dans une espèce d'approximation, d'improvisation permanente. Ce qu'il y a de plus saisissant dans cette histoire, dont c'est passionnant encore une fois, c'est l'incapacité du système autour à repérer. Non, parce qu'ils n'arrivent même pas à masquer, ils avancent même pas à masquer, ils cherchent même pas à tromper leur monde. Ils sont totalement insouciants, totalement inconséquents.
Donc, cher Christian Chavagneux, on ne peut pas le qualifier d'escroc.
Mais de toute façon, on n'en sait rien. Moi, quand Jean-Marc m'a dit « je vais prendre ce bouquin », j'ai dit « génial, une escroquerie financière, le gars est quand même en taule en ce moment, il est en prison, il attend de savoir. Le 28 mars, on saura combien d'années de prison, hein, il va être condamné. » Et Michael Lewis, l'auteur du Big Short, enfin, moi, je me frottais les mains. Franchement, j'ai été déçu à la hauteur de mes anticipations. J'ai trouvé, moi, ce livre ennuyeux au possible.
Ah oui ?
Totalement ennuyeux. Le premier tiers nous parle de la jeunesse et des premiers pas dans la vie de SBF, comme on l'appelle. Oui, alors c'est un gamin qui socialise pas beaucoup avec les autres, et comme il est doué en proba, il rentre dans la finance. Ah, comme 10 millions d'autres personnes dans le monde, comme 10 000, 100 000 autres personnes dans le monde, oui, il sait un peu de proba, donc il va dans la finance. Il trouve que, bon, c'est pas terrible, effectivement, il va créer sa propre boîte de trading de crypto-actifs. Alors on apprend, page après page après page, qu'il y a des moments où il gagne de l'argent et des moments où il en perd. Ah, passionnant. Du coup, il va dire, non, ce qu'il faut faire pour vraiment gagner beaucoup d'argent, c'est pas seulement trader sur les crypto-monnaies, mais créer une plateforme d'échange de crypto-actifs. Et donc là, il crée sa plateforme d'échange, et ben il y a des moments où il gagne de l'argent et des moments où il en perd. Donc on se dit... bon, et en plus, en fait, Michael Lewis s'est fait avoir parce que SBF était vraiment au top du top dans la finance, et il a décidé d'écrire le bouquin au moment où il était au top du top dans la finance. Et il se fait rattraper par l'actualité. Effectivement, à la fin, on se retrouve avec tout le monde qui part, et pour pas se faire arrêter par la police. Et les trois plus proches collaborateurs qui sont cités dans le bouquin, en fait, vont accepter de témoigner contre lui. C'est pour ça que c'est lui aussi qui est au procès. Leur procès à eux et le résultat du procès aura lieu bien après. Mais du coup, Michael Lewis s'est fait un peu avoir parce qu'il venait faire un bouquin un peu hagiographique et se retrouve avec un gars qui est condamné pour escroquerie et blanchiment. Et du coup, bah, nous, on sait pas trop s'il y a escroquerie et blanchiment ou pas. Alors, ce qu'a dit Jean-Marc est juste, mais ça tenait en un chapitre. On apprend des petites choses sur le personnage, c'est-à-dire qu'il est un peu asocial, peut-être Asperger, c'est ce que ses avocats défendent pour essayer de réduire sa peine. Il s'est incapable de gérer les relations aux autres personnes, incapable de gérer ses boîtes, incapable de gérer les flux financiers entre les deux entreprises qu'il a créées. Bref, à la fin, j'ai trouvé le bouquin très long, je me suis beaucoup ennuyé, et je trouve qu'il y a encore un travail à faire, surtout quand on aura le résultat du procès, puisque je rappelle que le procureur a demandé 100 ans d'emprisonnement, et que ses avocats ont dit oui, non, il a fait des bêtises, mais 5-6 ans, ce serait suffisant.
Bon, bah finalement, deux livres qui ne nous ont pas menés aussi loin que on l'espérait. On peut
oui,
dire.
Non,
on peut
non,
dire
non, comme il faut. Ça. Il faut quand même, surtout si vous connaissez rien à SBF, oui, à FTX, il faut le lire quand même, ce livre, malgré les réserves de notre ami Christian.
Allez, parfait. Merci, messieurs. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire Eva Jacquot.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Et on retrouve Eva Jacquot, notre bibliothécaire du jour. Bonjour Eva.
Bonjour Emmanuel.
Alors Eva, on s'intéresse cette semaine à un roman d'anticipation, quand même, écrit par quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on voit souvent sur BFM Business, mais pas tout à fait dans ce registre-là, c'est Nicolas Harpagian.
Oui, un expert en cybersécurité qui travaille aussi sur les problématiques d'intelligence artificielle. Alors, il est vice-président du cabinet de conseil Edmine Partners. Il donne aussi des cours, notamment à l'École nationale supérieure de la police. Alors, c'est vrai qu'il écrit plutôt des essais habituellement. Le dernier en date, c'est frontières.com. Il travaille aussi sur les éditions du Que sais-je. C'est vrai donc qu'il est plutôt dans l'analyse habituellement. Mais là, il nous livre une vraie fiction. C'est son premier roman. Ça s'appelle Innocence à crédit. Alors, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est vraiment un roman cynique. Ici, on est un peu dans un monde qui ressemble au nôtre. On est vraiment dans une société. Finalement, j'ai eu l'impression de lire pas forcément une fiction, mais...
Oui, mais sur un scénario qui est quand même assez dystopique.
Oui. Oui, en fait, ça commence par une banale histoire de règlement de compte suite à une succession familiale. En fait, c'est le héros s'appelle Marc. C'est un galeriste qui tue malencontreusement un aide-soignant, l'aide-soignant de son oncle à qui il avait légué toute sa fortune. Alors, c'est un accident. Il fait donc appel à un ami d'enfance qui est avocat.
Et c'est là que ça devient intéressant.
Voilà, c'est là que ça bascule. Il fait appel donc à Étienne, un avocat d'affaires qui va essayer de l'aider. Mais voilà, avec une technique assez improbable, son avocat propose à Marc de trouver un coupable via un site de rencontre dédié, donc la recherche d'un profil idéal parmi une base de données assez large avec des délinquants, des criminels répertoriés et recrutés en fonction de motivations diverses. Alors ça nous fait penser à l'économie numérisée. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait appel à des applications pour absolument tout, pour rencontrer l'amour, pour trouver quelqu'un quelqu'un qui nous fasse nos travaux ou qui cuisine pour nous. Eh bien ici c'est le même concept. C'est un service qui est surnommé coupable sur demande et qui dédommage les faux coupables. C'est vraiment une entreprise commerciale qui est gérée par le cabinet d'avocats et qui recrute des profils avec des techniques comme la récupération.
Alors,
de données.
On se rappelle que dans le passé quand même, hein, pour éviter de partir à la guerre, y avait des riches qui payaient des gens pour aller à la guerre à leur place. On retrouve un peu cette idée finalement de forme de justice de classe.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu la vie et la mort modulée par un nouveau modèle économique, un nouveau commerce qui leurre la justice. Alors c'est vrai que c'est une solution d'offre et de la demande qui ne paraît pas si impossible que ça dans un futur proche. Il y a d'ailleurs des avocats qui ont lu le livre et qui ont pensé que ça pourrait potentiellement exister. Alors, au-delà de l'histoire, c'est vrai que le livre fait réfléchir, puisque quand les hommes se trouvent face à une situation critique, leur esprit s'adapte vraiment. Alors moi, ce qui m'a marqué véritablement dans ce roman, c'est qu'en fait, j'ai pas eu l'impression de lire une fiction, dans le sens où l'histoire se passe dans un cadre bourgeois, dans un espace feutré, avec le cabinet d'avocats est dans les beaux quartiers. On a vraiment l'impression que c'est des éléments tangibles. Il y a juste cette activité qui est créée de toutes pièces.
Et voilà ce roman qui nous a bien plu de Nicolas Harpagian. Allez, on va poursuivre dans un monde bien réel, celui-là, celui de Benaouda Abdedaïm, qui nous emmène, comme chaque semaine, aux quatre coins du monde avec les études qu'il a glanées un peu partout.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Allez, on commence notre périple hebdomadaire par l'Allemagne, où le télétravail devient une habitude bien ancrée.
Oui, Jean-Victor Alipour, qui est un économiste allemand au centre IFO de l'économie industrielle et des nouvelles technologies de Munich, nous dit que le télétravail est là pour rester dans son pays. Ce centre est considéré comme, il faut le préciser, proche des employeurs. L'étude porte sur les services en Allemagne. Il a passé en revue pratiquement 9000 entreprises à travers le pays. Plus d'un tiers des salariés du secteur des services pratiquent le travail à distance. Ce que les Allemands appelle le bureau à domicile, fait définitivement partie, nous dit-il, de la culture nationale du travail. Qu'importe au fond les débats ponctuels que l'on voit dans les médias sur telle ou telle société qui pousse à un retour des employés, à un retour au statut antérieur à la crise du Covid, il est acquis que le télétravail s'est imposé dans la première économie d'Europe. Le mois dernier, près d'un travailleur sur quatre des services a effectivement travaillé de chez lui, en tout ou partie. Depuis maintenant 2 ans, c'est devenu une constante allemande. Mais il y a maintenant une différence entre les petites et moyennes entreprises, entre les PME et les grandes entreprises. Ah oui. Plus l'entreprise est petite, moins il y a de recours au télétravail. L'écart atteint 12 points. Et l'auteur constate aussi combien les services, du fait même de leur activité, se distinguent du reste de l'économie. L'industrie se situe à 16%, le commerce à 12%, la construction bien entendu à un peu plus de 5%. Mais Jean-Victor Alipour considère que ce n'est pas parce que la tendance est bien ancrée, semble irréversible, qu'il faut négliger le présentiel. Il y a lieu, selon son analyse, de prévoir, voire d'imposer des heures de coordination au bureau pour fluidifier les échanges. Pour lui, lorsqu'il s'agit de transférer les connaissances, d'améliorer la créativité, d'améliorer les liens sociaux, rien ne vaut le bureau.
Une nouvelle étude, Benaouda, pour alimenter le débat sur l'impact du prix des cigarettes sur la consommation, et ça se passe en Indonésie.
Oui, début mars, une enquête internationale a placé l'Indonésie, première population d'Asie du Sud-Est, premier PIB aussi d'Asie du Sud-Est, comme le pays avec le taux de fumeurs masculin le plus élevé au monde. 67% des hommes de plus de 15 ans fument. Les femmes fument assez nettement moins, mais combiné, le taux national de l'Indonésie n'est que de 4 points inférieur à celui de la Russie, en tête des nations de fumeurs et fumeuses. La ministre indonésienne de la Santé admet en la matière un échec à protéger les citoyens. Le prochain exécutif aura donc à envisager une action fiscale déterminée. C'est tout le sens de ce travail de recherche du CISDI à Jakarta. C'est le Centre pour les Initiatives de Développement Stratégique qui travaille beaucoup sur les questions de santé et d'économie de la santé. Mohamed Zulfikar Firdaus et ses co-auteurs traitent de la faiblesse des droits d'accise sur les cigarettes dans leur pays. Selon eux, concentrer l'effort de dissuasion sur le prix du paquet donnerait les meilleurs effets pour amener à l'abandon du tabac. D'après leur recherche, qui rejoint en fait bien d'autres à l'échelle mondiale, il existerait une forte corrélation positive entre les augmentations de prix et la probabilité d'arrêter. L'élasticité prix, c'est-à-dire la sensibilité de la demande à la variation, est évaluée dans ce sens. Toutefois, ces chercheurs indonésiens, en comparant avec les résultats dans la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire les pays comparables à l'Indonésie, ils constatent que l'effet prix apparaît nettement moins dissuasif qu'ailleurs. La recommandation est donc d'augmenter très fortement et uniformément la taxation afin qu'il n'y ait aucun report possible de consommation, interdire aussi la vente pratiquée à l'unité, à la cigarette, renforcer la lutte contre le trafic, des propositions d'économistes qui ne tiennent pas vraiment compte de l'impact politique et social majeur pour le nouveau gouvernement qui entre en fonction en octobre prochain.
Et pour terminer, vous nous racontez la guerre économique dans le sud du Mali, Bennaouda, je dis bien la guerre économique.
Économique, exactement. Il faut voir que l'or du Mali est convoité par beaucoup, beaucoup de monde. Dernièrement, les informations ont fait état de l'arrivée d'éléments paramilitaires russes Wagner dans une mine aurifère du nord de ce pays sahélien. Elle avait été découverte en 2018. Un groupe Touareg en avait pris le contrôle et il en a été chassé ensuite par l'armée malienne. Et maintenant s'installe, en arrivant par hélicoptère de l'armée malienne, ce groupe Wagner. Alors, dans ce récent travail de recherche par Ndou Bouizi, Christian Annie, publié par la commission de la CDAO. La CDAO, c'est l'organisation économique ouest-africaine la plus large. Il est expliqué comment, pour l'organisation djihadiste, JNIM, les mines d'or ont joué un rôle significatif dans leur expansion, d'où cette idée que ça a alimenté la guerre et par l'économie. Le JNIM, après avoir pris le contrôle de sites aurifères dans le nord et dans le centre du Mali, tente de faire de même dans le sud, dans deux régions riches de cette ressource minière. Le GNIM s'est attaqué au secteur artisanal qui échappe largement à la réglementation de l'État et donc prive les caisses publiques maliennes de recettes intérieures et de recettes d'exportation en devises. Cet or illégalement exploité est écoulé dans la capitale, mais sort aussi vers la Guinée, vers le Sénégal, vers la Mauritanie. Mais ce qui est analysé dans ce document par cet expert qui travaille pour un institut nigérian, c'est aussi une vaste tentative du JNIM de s'emparer de l'exploitation forestière de ce sud malien, mais aussi de l'élevage de bétail. L'auteur raconte tout un banditisme de très grande ampleur, une guerre économique là aussi. Pour lui, il est donc urgent de redonner vie aux accords de paix conclus à Alger en 2015, de renouer des partenariats de développement internationaux, de soutien, afin d'empêcher le sud malien de se radicaliser à son tour, et d'engager également des consultations nationales afin de parvenir à une abolition de l'esclavage héréditaire dans ces régions. L'or, le bois, le bétail, somme toute, ce ne sont que des paramètres d'un arrière-plan.
Merci beaucoup, Bennaouda Abdennaïm. C'était passionnant, comme chaque semaine. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Alors j'ai choisi un livre qui s'appelle « Peut-on encore manger des bananes ?» Et donc ce livre qui est signé par Mike Berners-Lee vous donne la quantité de CO2 qu'émet un de vos gestes de la vie quotidienne. Alors c'est les gestes les plus... boire un verre de lait, boire... Et alors les bananes jouent un double rôle parce que on vous dit combien ça coûte en CO2 de manger une banane. Et puis la banane réapparaît par exemple sur quand vous faites 1 km à vélo. Suivant la façon dont vous avez produit votre propre énergie, c'est-à-dire si au petit déjeuner vous avez mangé une banane, ça a telle quantité de CO2 derrière le kilomètre de vélo. Si au contraire vous avez mangé des céréales avec du lait, ça c'est tant. Si au contraire vous avez mangé des viennoiseries avec un café, c'est tant. Et donc c'est assez amusant. Et donc à chaque fois de comparer le bilan d'ailleurs. Donc le bilan de tout ça, c'est que l'agent économique qui produit le plus de CO2 à la surface de l'Europe en ce moment, c'est l'Etna, en Sicile, parce que les volcans produisent une quantité colossale de CO2. Et donc, avec une certaine forme d'humour, l'auteur dit qu'il faudrait essayer de calmer le volcan.
Pour le calmer. Non, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, il y a des tas d'actions dont on pense qu'elles sont très néfastes pour la planète et on se rend compte que pas tant que ça. Et à l'inverse, des gestes qui nous paraissent anodins peuvent être effectivement...
Oui, absolument. Alors avec des recommandations, ils vous disent il vaut mieux boire du lait d'avoine que du lait de vache. Le problème, c'est...
Voilà, sur le plan nutritionnel, c'est pas pareil.
Exactement. Et sur le plan du goût, c'est quand même pas exactement la même chose.
Christian, votre dernier choix.
Alors, rien à voir, c'est Les Jours Heureux, le fameux programme du Conseil National de la Résistance. On en parle souvent et puis on le lit jamais. Ouais. Et ben, les éditions Grasset viennent de le republier. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que les deux tiers en fait, c'est comment lutter de manière efficace contre les Allemands. Et c'est le dernier tiers seulement qui parle d'économie, dans lequel on trouve des idées comme il faut un prix agricole aux producteurs qui soit rémunérateur, il faut soutenir le pouvoir d'achat, il faut que les salariés participent à la vie de l'entreprise, il faut qu'on se débarrasse des féodalités économiques et financières. Tout ça est vraiment intéressant et il y a doublement intéressant parce qu'il y a une longue préface de Sophie Binet qui nous dit en fait comment tout ce programme a pu être mis en place, c'est qu'il a été consensuel de la droite à la gauche. C'est pas simplement un programme de gauche, c'est un programme consensuel de la droite à la gauche qui a été bâti par vraiment des grandes forces politiques. Et en plus, j'ajoute juste une dernière chose, en plus, il a pu d'autant plus être mis en œuvre que le patronat était complètement affaibli parce que quand même une grande partie du patronat français pendant la Deuxième Guerre mondiale a collaboré avec l'occupant. Donc un patronat affaibli a aussi permis de mettre en place toutes ces protections sociales et tout ce qu'on a vu pendant les Trente Glorieuses.
Alors je ne voudrais pas dire de bêtises et parler sous le contrôle de Jean-Marc. Il y avait quand même une partie des idées qui avaient été élaborées dans les années 30 et une partie qui était aussi des idées du régime de Vichy, Jean-Marc.
Ah oui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont les héritages d'abord du Front Populaire. Ensuite, une partie, c'est les héritages de ce qui a été mis en place sous Vichy. Donc c'est un ensemble assez
non, mais ce qui logique. Le côté consensuel,
oui, c'est une logique. Il y a quand même
franchement, ça ressort pas vraiment de la lecture de ces quelques pages parce que c'est vraiment moi ce qui m'a surtout surpris, c'est que la partie pages. Économique est très très courte et l'essentiel en fait du document, c'est dire comment est-ce qu'on va finir de se battre contre les Allemands pour les sortir du pays.
Et les prix agricoles, par exemple, c'est dès 1936 et c'est conforté par Vichy. Hein.
Allez, moi je termine avec ce petit livre que vous avez dû tous recevoir, BSI Economics, 12 clés économiques pour aborder 2030. C'est aux éditions Duno. Le mérite de ce livre, c'est qu'effectivement il pose des questions d'actualité qui sont traitées par des jeunes économistes qui sont beaucoup quand même des économistes de banques et de sociétés d'investissement. Donc ce qui est bien, c'est les questions qui sont pertinentes. Le visage un petit peu des économistes qui écrivent, qui est un petit peu renouvelé. Après, même s'ils sont tous jeunes, ils sont pas tous d'une originalité. Ils sont pas tous transgressifs, on va dire. Voilà. Mais au moins, c'est des bonnes synthèses sur chacun de ces sujets. Synthèses extrêmement pédagogiques et sérieuses. Je vous recommande ce petit ouvrage. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.